Bonjour frères et sœurs, ici le pasteur Joël Spinks et aujourd'hui nous sommes toujours dans le troisième chapitre sur le thème « Le Dieu trois fois saint ». Et puis nous poursuivons aujourd'hui, on va parler du Saint-Esprit. Mais premièrement, je veux juste terminer en faisant un survol un peu des choses qu'on a vues concernant Jésus, le Fils de Dieu, qui est en fait Dieu lui-même. Nous avons vu que Jésus est digne d'être adoré. Et une des choses qu'on a souligné également, nous avons vu des textes qui nous parlent de Jésus le premier-né. Des fois, les gens vont dire, regardez, Jésus est simplement une créature puisque la Bible dit qu'il est le premier-né. Mais comme j'ai mentionné également, nous savons que David, le roi David, a également eu le titre, le premier-né. Donc, on ne comprend pas ici le titre, le premier-né, comme littéralement le premier-né, mais c'est un titre d'un rang, du premier rang. Donc, c'est très facile pour nous de croire que Jésus a la prééminence, il a le premier rang. Amen. Donc, c'est une des choses qu'on voulait souligner. Et si vous voulez le texte dans l'Ancien Testament concernant le roi David, c'est dans Psaume 89 et le verset 28, ou dans certaines traductions, c'est le verset 27. Donc, dans Psaume 89, verset 28 ou 27, vous pouvez aller marquer ça dans votre Bible à côté du texte dans Colossiens, chapitre 1, verset 15, qui dit « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Ça veut dire certainement qu'il est celui au premier rang. Et si on veut prendre ça littéralement, bien il y aurait une contradiction dans la parole de Dieu parce qu'on voit ailleurs que David était également le premier-né. Donc, j'espère que ça fait du sens pour vous. Et on poursuit aujourd'hui avec le Dieu trois fois saint, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Cette fois-là, on va mettre l'emphase sur le Saint-Esprit. Premièrement, Dieu est esprit. Dans Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, c'est la première chose qu'on veut comprendre. Dieu est esprit. L'esprit parle, dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc, une des choses qu'on veut souligner ici, l'esprit dit aux églises. Il y a des gens qui ont dit, ah bien, le Saint-Esprit, c'est simplement une force active. Il y a toutes sortes de théologies qui circulent dans le monde religieux, et je dis religieux parce que ce n'est pas le christianisme véritable, c'est pas vraiment des enfants de Dieu qui peuvent croire des choses pareilles, mais ici, la parole de Dieu est claire, l'Esprit dit aux églises. Est-ce que de l'électricité parle? Non, on n'a pas un courant d'électricité qui va nous communiquer des choses. Une autre chose qu'on voit, qui nous révèle vraiment que le Saint-Esprit est une personne, nous voyons que l'Esprit console. Dans Jean, chapitre 15, verset 26, il est écrit, « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Ici, c'est Jésus qui parlait. Et encore une fois, dans ce texte-là, nous voyons la Trinité. L'Esprit connaît également, dans 1 Corinthiens 2, versets 10 à 11, « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Encore une fois, est-ce que de l'électricité peut connaître des choses? Non! Une force active ne peut pas connaître des choses. L'esprit possède des émotions également. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » N'attristez pas le Saint-Esprit. Ici, nous parlons certainement d'une personne avec des émotions. Dans Ésaïe 63, verset 10, dans la Bible du Semeur, il est écrit, « Mais eux, ils se sont rebellés, ils ont attristé son Esprit Saint. » Donc, encore une fois, des émotions ici. L'Esprit possède une volonté. 1 Corinthiens 12, verset 11. « Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il veut. » Et là, ici, nous parlons des dons du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit distribue comme il veut. L'Esprit aide et intercède dans Romains 8, versets 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède, ou l'Esprit prie par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Bon, gloire à Dieu. C'est simple, là. C'est simple à comprendre que l'Esprit Saint est Dieu, que l'Esprit Saint n'est pas simplement une force active, une puissance. Mais oui, certainement, Dieu est puissant, alors certainement, le Saint-Esprit est puissant et nous pouvons dire qu'il y a une force qui est relâchée quand le Saint-Esprit agit, mais nous ne pouvons pas limiter le Saint-Esprit à une force. Ok? Donc, on fait la différence entre tout ça. Si vous dites, oui, mais pasteur, est-ce que c'est important pour moi de tout comprendre ça? Bien, c'est important, même si vous ne retenez pas tout ça aujourd'hui, qu'est-ce qui est important? C'est de faire la distinction entre les mensonges qui circulent dans le monde religieux et connaître la présentation biblique. Parce que quand on se fait enseigner des choses contraires à la parole de Dieu, des fois on se remet en question puis on est confus. Et c'est ça que l'ennemi veut faire. Il veut semer des doutes. Il y a des gens qui vont venir à votre porte, vous emmener des revues remettant en question la Trinité. Et puis là, ils vont vous argumenter des choses. Et là, vous allez être là en train de penser et dire, « Ah, oh, coudonc, c'est vrai, c'est difficile à comprendre. C'est vrai, qu'est-ce qu'ils disent? Ça fait plus de sens. » Et je peux vous dire que humainement, les mensonges peuvent faire plus de sens humainement parlant parce qu'on a diminué Dieu. On le réduit à des explications plus faciles à comprendre. Mais ceci dit, c'est des mensonges. La Bible dit autre chose. Donc, qui voulons-nous croire aujourd'hui? Les menteurs ou la parole de Dieu? On veut croire la parole de Dieu. Concernant Dieu, Dieu est vivant. Là, on va juste vous parler de Dieu, tout simplement. Dieu est vivant. Dans Jérémie 10, verset 10, « Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. » Ah, Dieu est vivant. Heureusement, on ne sert pas un Dieu de plâtre, on sert un Dieu vivant. Et dans Jean 5, 26, « Le Père a la vie en lui-même. » Donc, nous parlons d'un Dieu de vie. « Dieu est amour. » Dans 1 Jean 4, verset 16, « En nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. » Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Dieu est bon. Oui, nous croyons que Dieu est bon dans le psaume 145, verset 9. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Dieu est juste, miséricordieux et fidèle. Dans Esdras 9, 15. Éternel, Dieu d'Israël, tu es juste. Le psaume 145, verset 17. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Si jamais vous vous posez des questions et puis vous pensez, ah, Dieu n'est pas juste dans telle situation, bien, rappelez-vous de ce texte-là. Dieu est toujours juste et des fois, c'est notre perspective qui n'est pas juste. On a des fois une façon de comprendre les choses et si jamais on pense que Dieu a tort, en fait, c'est nous. Nous avons tort. Dieu n'a jamais tort. Dieu a toujours raison. Dieu connaît toutes choses et puis c'est à nous de s'humilier devant Dieu et dire « Écoute Seigneur, je ne comprends pas, mais je veux aujourd'hui déclarer que je te fais confiance. » Dans Deutéronome 32, verset 4, « Il est le rocher et ses œuvres sont parfaites car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. » Dieu est jaloux pour nous. Il y a des gens des fois qui ont dit « Ah, bien moi je ne veux pas servir un Dieu qui est jaloux de moi. » Non, vous avez mal compris si vous pensez ça. Dieu est jaloux pour nous, pas de nous. Dans Deutéronome 4, verset 24, « Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. » Ce qui veut dire, Dieu nous aime tellement, il veut nous avoir à lui seul. Il ne veut pas nous partager avec de faux idoles. Et il n'accepte pas de venir en position numéro 2 dans nos vies. Il veut être numéro 1. Et c'est pour ça, Dieu est jaloux pour nous. Il veut nous avoir tout à lui. Dieu est éternel. Dans le psaume 102, verset 27, « Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. » Comme nous avons vu au tout début du chapitre, Dieu est éternel. Oui, c'est difficile pour nous de comprendre ça, mais nous croyons quand même. Amen. Dieu est immuable. Il ne change pas. Malachie 3, verset 6, « Car je suis l'éternel, je ne change pas. Si Dieu est bon aujourd'hui, il sera bon demain. » Amen. Dieu est omniprésent. Dans le psaume 139, versets 7 à 10, « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu y vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » Jérémie 23, 23, 24, « Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? » Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? Dit l'Éternel, ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre? Dit l'Éternel. Donc, si nous voyons, Dieu est partout, Dieu est omniprésent. Mais même si Dieu est partout, la présence de Dieu n'est pas partout. C'est pour ça, des fois, on peut aller dans une église et puis on ne ressent pas la présence de Dieu parce que peut-être c'est un esprit religieux qui règne dans cette place. Mais lorsque le Saint-Esprit règne dans une église, bien, nous ressentons la présence de Dieu. Donc, oui, Dieu est partout, il connaît toutes choses, mais la présence tangible de Dieu n'est pas partout. Dieu choisit de se manifester là où nous marchons dans la vérité et là où la gloire de Dieu est la bienvenue. Dieu est omnipotent. Dans Matthieu, chapitre 19, verset 26, Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Et dans Job 42, verset 2, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Oui, notre Dieu est grand et puissant, il peut tout faire, sauf une chose, se contredire. Dieu n'est pas un Dieu menteur. S'il a dit une chose, il va l'accomplir. Dieu est omniscient. Dans 1 Jean 3, 20, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Le psaume 147, verset 5, notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. C'est merveilleux de savoir ça. Dieu connaît toutes choses, il connaît tous nos besoins. Et dans le psaume 139, verset 4, il est écrit, car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Non, il est impossible de vous présenter le Dieu de la Bible dans un seul chapitre. Notre Dieu est infini. Alors, nous n'avons fait qu'un survol élémentaire sur ce qu'il est. Heureusement, nous avons toute l'éternité pour le découvrir. Alors, gloire à Dieu pour ça. On a passé à travers le chapitre sur ce Dieu trois fois saint. Comme je viens de vous lire, nous avons juste simplement fait un survol en surface sur la grandeur de notre Dieu, mais nous avons compris les choses vraiment importantes aujourd'hui. Notre Dieu s'est révélé à nous dans la parole, dans sa sainte parole, comme étant un Dieu composé de trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous avons compris aussi dans ce chapitre que nous acceptons aujourd'hui de croire cette chose, ce que je viens de vous expliquer, par la foi. Pourquoi? Parce que c'est biblique, c'est notre raison. Nous croyons la Bible tout simplement, nous allons de l'avant et c'est la seule façon pour nous de progresser. Les gens qui ont refusé cette doctrine ou cet enseignement-là, bien, ce sont partis des sectes. Et aujourd'hui, j'aime mieux me ranger du côté de la parole de Dieu et dire, « Ok, je ne peux pas tout expliquer, je ne comprends pas vraiment nécessairement tous les détails, mais je comprends dans mon esprit, je l'ai reçu et j'ai cru. » Ou on peut se ranger du côté des sectes, et puis on a une panoplie de sectes, on a les témoins de Jéhovah, les Mormons, eux, ils ont défini Dieu d'une autre façon. Au lieu de croire dans un Dieu en trois personnes, eux, ils croient en trois dieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais encore une fois, on vient de contredire la parole de Dieu qui nous dit « il y a un seul Dieu ». Donc, il y a tellement de sectes dans le monde. Croyons la parole de Dieu, marchons dans l'humilité, disons « Seigneur, tu l'as révélé dans ta parole, je vais croire ta parole ». Peut-être je ne serai pas capable de toujours tout expliquer parce que Dieu est tellement grand, c'est impossible pour nous de le diminuer à un tel point où nous allons tout comprendre et demeurer dans la vérité. Donc, ce qu'on fait, on marche dans la vérité de la parole de Dieu, notre foi ancrée dans la parole de Dieu et accompagnée de la présence du Saint-Esprit qui nous accorde la paix. Et nous savons que nous sommes dans la vérité parce que nous marchons à la lumière de la parole de Dieu. C'est bien mieux de marcher à la lumière de la parole de Dieu que de marcher à la lumière d'une revue ou d'une autre révélation anti-scripturaire. Alors aujourd'hui, en terminant, je veux vraiment vous remercier d'avoir été là pendant ces sessions sur le Dieu trois fois saint. C'est super important pour vous d'avoir été exposé à cet enseignement-là. Et puis, on va continuer dans notre prochaine session, voyant plein de belles choses sur la parole de Dieu. Et je veux vous encourager, continuez à marcher avec le Seigneur d'une façon fidèle. Soyez fidèle à votre église locale, je le dis constamment. Mais c'est important pour vous de vraiment prendre les bons pas au tout début de votre vie chrétienne. Soyez fidèle dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu et continuez à grandir afin de vraiment expérimenter la vie du disciple victorieux.